Vous êtes sur RTL.
RTL Matin, Yves Calvi.
RTL, il est 7h44. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Alba Ventura, vous recevez donc ce matin le coordinateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme, Laurent Nouniez.
Bonjour Laurent Nouniez.
Bonjour.
5 ans après les attentats de Paris, comment peut-on qualifier la menace terroriste aujourd'hui? Je vous dis ça parce qu'on a le sentiment que l'on est moins face à l'organisation d'attentats de grande ampleur comme en 2015 que d'actes isolés, d'actes de fanatiques, pourrait-on dire, comme on a pu le voir pour Samuel Paty ou à Nice.
Oui, vous avez parfaitement raison. D'abord, permettez-moi évidemment d'avoir une pensée pour les nombreuses victimes des attentats du 13 novembre 2015, il y a 5 ans. L'état de la menace est toujours très élevé, mais c'est une menace de nature différente, et vous avez raison de le souligner. En 2015, c'est une attaque projetée, des personnes qui arrivent de Syrie, Irak, pour commettre des attaques. Certains sont connus des services, et ce type d'attaque nous semble moins probable, même si nous restons évidemment très, très vigilants, nous serons moins probables grâce à l'action qui a été menée par la coalition, au délitement de l'État islamique, mais qui continue à survivre de manière clandestine. Et donc, il faut rester vigilant. Et c'est le travail et le rôle de la Direction Générale de la Sécurité Extérieure, la DGSE, le Bureau des Légendes, mais dans la vraie vie, si vous me permettez cette expression, dans la vraie vie, qui a contribue évidemment au démantèlement de l'État islamique et qui continue à suivre les cellules clandestines de l'État islamique. Et aujourd'hui, c'est vrai que la menace, elle est toujours aussi élevée, mais c'est une autre forme de menace, c'est plutôt une menace endogène d'individus qui sont inspirés par la propagande d'Al-Qaïda et de l'État islamique, qui est très forte en ce moment.
Donc endogène, c'est à l'intérieur
procès,
du pays.
Dans un contexte de procès, voilà. Notamment des procès de Charlie et de l'hypercacher, dans un contexte où la France est traitée évidemment à tort d'islamophobe, où il y a une propagande lourde qui est dirigée contre nous de l'État islamique et d'Al-Qaïda, qui vise à ce que des individus présents sur le territoire passent à l'action, le cas échéant avec des moyens rudimentaires, on l'a vu à Nice, un couteau, ça peut être des voitures ou une voiture bélier, mais il y a une incitation forte de la propagande à passer à l'action qui peut susciter et inspirer un certain nombre d'auteurs. Et d'ailleurs, en réalité, effectivement, et vous avez raison de le souligner, les dernières attaques que nous avons subies sont le fait d'auteurs isolés qui souvent n'étaient
mais
pas connus.
Mais c'est plus dangereux, on se dit que c'est plus difficile à détecter.
Évidemment, c'est tout autant dangereux, c'est la sécurité de nos concitoyens qui est en jeu, mais la différence notable, c'est que c'est évidemment beaucoup plus difficile à détecter.
Et comment vous faites, justement, est-ce que vous repérez par exemple les messages envoyés par Al-Qaïda ou l'EI?
Bien sûr, d'abord dans ce contexte de menaces très élevées, vous imaginez bien que les services de renseignement surveillent tous les objectifs et d'extrêmement près, tous ceux qui sont d'ores et déjà connus. Ce sont des dispositifs de protection qui sont mis en place, de sécurisation qui sont mis en place sur la voie publique. Et puis, ce sont surtout, et c'est ce qui a complètement changé d'ailleurs depuis 2015, on a changé de monde en matière de lutte antiterroriste, c'est surtout cette coordination renforcée au plan national entre tous les services de renseignement qui jouent à plein, entre tous les grands services de renseignement, de police judiciaire. Ils échangent en permanence. Il y a un état-major à la DGSI qui se réunit tous les jours, 24 heures sur 24, en permanence pour échanger de l'information. Et c'est surtout l'échange d'informations avec nos grands partenaires, c'est-à-dire les partenaires étrangers des services de renseignement.
On va y venir. J'ai une question, peut-être vous paraîtra-t-elle bête, mais le confinement, ça limite la menace?
Non, ça ne limite pas la menace. Vous savez, pendant le premier confinement, nous avons eu 2 attaques. Alors, des attaques endogènes, mais 2 attaques. Donc, ça ne limite pas la menace. Il y a moins de déplacements, il y a plus de contrôles policiers sur la voie publique. Donc, effectivement, les mailles du filet se resserrent un peu. Mais quelqu'un de déterminé qui veut passer à l'action pourrait tout aussi bien le faire pendant le confinement. Et en tout cas, les services de renseignement ne lèvent pas leur vigilance pendant cette période. Tout au contraire.
Et donc, vous nous disiez que la menace était rouge écarlate?
Elle est très élevée, la menace est très élevée.
En quelques semaines, le terrorisme a frappé en France, à Paris, à Conflans-Sainte-Honorine, à Nice, en Europe, à Vienne, en Autriche. Le président Emmanuel Macron, qui a organisé un mini-sommet mardi dernier, a appelé les pays européens au sursaut. De votre côté, vous revenez d'une tournée. Vous avez fait l'Italie, Malte, la Tunisie, l'Algérie et hier encore, vous étiez en Russie. Quels moyens avez-vous, Laurent Nouniez, d'empêcher un tueur qui viendrait de Tunisie avec 800 autres migrants, c'est ce qui s'est passé pour Nice, qui passerait par Lampedusa en Italie, qui arriverait à Bari, on lui remettrait un pauvre papier disant qu'il a 7 jours pour retourner chez lui. En gros, il est dans la nature. Quels moyens on a pour empêcher ça?
Alors d'abord, pour être très, très, très précis, donc ce qui s'est passé mardi, c'est très important. Le président de la République a souhaité réunir le président de la Commission, le président du Conseil, la chancelière allemande, le chancelier autrichien, le Premier ministre des Pays-Bas pour apporter une réponse rapide et coordonnée de l'Union européenne. Pourquoi? Parce que qu'on voit bien que les attentats frappent toute l'Europe. Ce qui est visé, c'est l'Europe, ce sont les démocraties européennes, c'est une certaine conception des droits de l'homme. Et l'attaque de Vienne est malheureusement venue le démontrer, que dans un contexte de menace élevée, elle a eu lieu dans un pays, l'Autriche, qui n'avait pas été frappé à ce niveau-là, mais d'autres l'avaient été, l'Allemagne, l'Espagne, le Royaume-Uni, la Suède, la Finlande, d'autres pays avaient été frappés. Et donc, il est nécessaire d'avoir une réponse coordonnée. L'Union européenne, vous savez que l'échange entre services de renseignement, la lutte antiterroriste, est du domaine de la compétence des États. C'est quelque chose qui est important à rappeler. Et l'échange d'informations fonctionne bien. Il fonctionne même très bien. Et l'Union européenne fournit à ses services de renseignement les outils qui vont permettre d'optimiser leur échange d'informations. Et c'est ce que le président de la République a voulu, un, rappeler mardi dernier, et deux, relancer à l'occasion du Conseil européen qui va se tenir en décembre. Très concrètement.
Mais donc, ce Tunisien-là, comment il passe à travers les mailles du filet si on a autant d'outils que vous soulignez ?
Très concrètement, ça veut dire qu'il y a des fichiers qui permettent d'échanger l'information sur les individus dangereux entre tous les États de l'Union européenne. C'est le fameux fichier, le système d'information Schengen. C'est le système du PNR qui permet d'identifier les passagers, des individus qui prennent des transports. Et ce PNR, d'ailleurs, ça fera partie évidemment des annonces qui auront lieu, je pense, en décembre lors du Conseil européen. Tous ces fichiers vont être étendus, vont être rendus interopérables. Et puis évidemment, il faut évidemment, et c'est aussi l'annonce qu'a faite le président de la République, le Conseil européen s'engagera dans une refonte du système Schengen pour mieux contrôler les frontières extérieures.
Comment
de l'Union européenne.
Contrôle mieux les frontières ?
On renforce les contrôles, il faut qu'il y ait des criblages qui soient faits systématiquement.
Des criblages, c'est-à-dire c'est quoi des criblages ?
C'est-à-dire qu'on puisse vérifier, un, l'identité des personnes qui se présentent et savoir surtout si ces individus sont connus. D'où l'importance de l'échange de renseignements entre
tous les services.
Mais ce qui est important, Alba Ventura, c'est que nous documentions au maximum les individus qui sont des individus dangereux. Vous savez qu'il y a énormément de combattants qui sont partis en Syrie, en Irak, qui cherchent à se relocaliser dans d'autres pays, à l'extérieur de l'Europe, mais parfois certains essaient de se relocaliser en Europe. Et il est très important que nous connaissions leur identité, que nous ayons des éléments d'information sur eux, pour pouvoir, quand ils veulent se présenter aux frontières extérieures de l'Union européenne, les détecter et évidemment les empêcher de pénétrer sur le territoire. Et généralement, vu les informations échangées entre les services, ils sont interpellés.
Laurent Nunez, que fait-on des 21 Tunisiens qui sont chez nous, en situation irrégulière, fichés pour radicalisation ? Ils sont expulsables ?
Alors, il faut être très précis. Effectivement, nous avons un certain nombre d'étrangers radicalisés qui sont suivis au FSPRT, au fichier de suivi de la radicalisation. Et depuis 2017, le gouvernement met une action continue d'expulsion de ces personnes. Nous parlons.
Donc là, vous allez les expulser.
Il y a déjà 460 personnes qui ont été expulsées depuis 2017 parce que étrangers en situation irrégulière et connus pour radicalisation. Et il reste effectivement un certain nombre de personnes à expulser. Et ce sont les démarches qu'entreprend actuellement le ministre de l'Intérieur qui a entrepris la tournée que vous avez rappelée, où je l'ai accompagné. Et le but, c'est bien d'obtenir des pays dont ces personnes ont la nationalité, qu'ils puissent les accueillir dans le cadre d'une expulsion.
Alors, est-ce que la Tunisie vous a dit oui, d'accord, on va les reprendre ?
Écoutez, évidemment, nous discutons avec ces États. Nous discutons avec tous les États pour toutes les expulsions. Vous savez, les expulsions sont aussi des démarches diplomatiques. Il faut obtenir des laissez-passer. Il faut d'abord qu'ils reconnaissent la nationalité des individus et obtenir des laissez-passer. Évidemment que nous avons, enfin le ministre de l'Intérieur a discuté avec, comme il l'avait annoncé d'ailleurs, avec la Russie, la Tunisie et l'Algérie et le Maroc pour pouvoir reconduire ces étrangers en situation irrégulière qui sont radicalisés. Mais j'insiste, depuis 2017, nous menons une action déterminée en ce sens.
Que veut dire le président Macron lorsqu'il dit le droit d'asile est dévoyé ? C'est-à-dire que on donne le droit d'asile sans savoir si la personne vient d'un pays en guerre ? C'est ça aujourd'hui la réalité ?
Non, le droit d'asile, vous savez, ça donne lieu à une enquête approfondie, qui fait notamment intervenir l'OFPRA. Ce que veut dire le président, c'est que le droit d'asile auquel la France est très attachée, offrir la protection à ceux qui sont persécutés dans leur pays, soit par leur État, soit par des groupuscules, c'est un droit fondamental. Mais force est de constater qu'un certain nombre de personnes essaient d'utiliser le droit d'asile pour venir en Europe sans forcément subir des persécutions dans leur pays.
Laurent Nunez, il y a un autre aspect de la lutte contre le terrorisme qui est la haine en ligne sur Internet. Le président Macron veut un règlement européen pour supprimer des contenus terroristes dans un délai maximum d'une heure. Comment on fait quand on sait qu'il y a 500 000 de commentaires qui sont publiés par seconde sur Facebook ? Et ces commentaires, qu'on peut dire malveillants, peuvent être insidieusement des appels au terrorisme ou à la haine ?
Mais d'abord, il y a trois choses. Le président de la République a annoncé trois choses. Le retrait des contenus en une heure pour les contenus terroristes, le retrait par les plateformes des contenus de haine, dont on a vu à Conflans-Sainte-Honorine, qu'ils peuvent mener à des attaques terroristes, et on impose aux plateformes de le faire. On ne peut pas le faire toute seule, il faut que les plateformes s'engagent, soient responsabilisées, et puissent aussi d'elles-mêmes retirer un certain nombre de contenus haineux.
J'ai une question précise concernant la lutte contre l'islamisme radical. Combien a-t-il eu de perquisitions depuis la mort de Samuel Paty ?
Écoutez, il y a... la question que vous posez est très intéressante, effectivement, parce que ça montre que le cadre qui a été adopté en 2017, à l'initiative donc, du président de la République, qui permet de faire des visites domiciliaires, qui sont les anciennes perquisitions administratives de l'état d'urgence, c'est un cadre qui fonctionne très bien, puisque depuis l'assassinat terrible de Samuel Paty, le ministre de l'Intérieur a obtenu 234 visites domiciliaires qui ont été validées. Donc c'est un chiffre tout à fait conséquent, et qui permet donc de se rendre au domicile d'individus soupçonnés de radicalisation, j'insiste bien, soupçonnés de radicalisation, pour confirmer ou infirmer cette radicalisation. Et c'est un dispositif qui, on le voit, fonctionne très bien.
Merci beaucoup Laurent Nunez pour toutes ces informations.
L'état de la menace est très élevé, mais elle évolue avec des individus, parfois avec des moyens rudimentaires, vient de nous confirmer Laurent Nunez, qui confirme aussi que 234 perquisitions donc ont été menées depuis l'assassinat de Samuel Paty. Merci beaucoup à tous les deux. L'intégralité de l'entretien est à retrouver en vidéo sur le site.